Donc, ben, nous pouvons procéder et commencer avec la nouvelle, avec la première conférence, qui est sur la présence et le rôle des Huguenots en Nouvelle-France. Moi, j'ai appris seulement en 2008 qu'il y avait des protestants francophones, qu'il y avait eu des protestants francophones au Québec avant les années 60. Je vous fais un aveu. Je pensais, puis comme beaucoup de gens assument que c'est seulement le franco-protestantisme au Québec, ça date seulement de quand il y a eu un réveil dans les années 60, 70, 80, sous l'impulsion de missionnaires, surtout américains. Or, eh bien, toutes ces choses-là, c'est vrai qu'il y a eu ça, mais il y a eu beaucoup de choses avant. Et c'est cette histoire-là qu'on entend restituer aujourd'hui. On commence par le début de l'histoire du Québec, la Nouvelle-France. Donc, les Huguenots en Nouvelle-France, je vais commencer par une brève définition. Le terme Huguenot désigne des protestants français, habituellement d'allégeance réformée ou calviniste. Que signifie Huguenot? Quelle est son étymologie? À vrai dire, plein d'étymologies ont été proposées. La plus plausible est que Huguenot, ou comme, bon, je ne suis pas germanophone, mais quelque chose comme Huguenoten, viendrait de l'allemand. Parce qu'en Suisse, la Suisse est en partie germanophone, francophone, etc., mais au Moyen-Âge et pendant la période de la Réformation, il y avait différentes cités, qui sont plusieurs d'entre elles éventuellement devenues calvinistes, qui formaient des confédérations, comme des alliances défensives. Et donc, Huguenot voudrait dire, en fait, confédéré. Donc, voilà. Maintenant, pour ce qui est de ma conférence, elle sera déployée selon trois thèmes qui correspondent assez bien avec la chronologie des événements. Premièrement, j'aborderai le projet calviniste de créer une colonie refuge au Nouveau Monde et les tentatives faites en ce sens. Deuxièmement, j'aborderai le rôle de premier plan que les Huguenots ont joué dans la fondation de la Nouvelle-France. Troisièmement, j'aborderai la présence des protestants en Nouvelle-France en tant que minorité religieuse. Donc, on commence. Premièrement, le projet calviniste de créer une colonie-refuge au Nouveau Monde. Ce projet que je vais décrire naît de la jonction de deux phénomènes qu'il faut mettre en contexte. D'abord, la réformation protestante, et bon, soit dit en passant, dire réformation en français n'est pas un anglicisme. À vrai dire, réformation est le terme qui était même utilisé au 16e siècle. Tandis que dire simplement « réforme » est un produit de l'historiographie séculière. Donc, la réformation protestante, qui débute en Allemagne en 1515, sous l'impulsion de Martin Luther, puis s'étend rapidement à travers l'Europe, en remettant en question les fondements religieux et politiques de l'ordre médiéval, et vise, par le fait même, à instaurer un nouvel ordre. La réformation protestante. Ensuite, la découverte, puis l'exploration des Amériques, qui survient à la même époque et qui élargit considérablement l'horizon conceptuel des chrétiens européens. Donc, d'un côté, la réformation avait pour but non seulement de restaurer l'Église, mais de transformer la société et l'humanité. Et de l'autre côté, les grandes explorations avaient pour but d'amadouer et de soumettre une partie du cosmos qui était nouvellement accessible aux chrétiens d'Europe. Donc, c'est dans cette optique qu'il faut situer l'élaboration d'un projet de colonie-refuge au Nouveau Monde par les réformés français. Bon, Pendant la Réformation en France, le Parti protestant a développé un internationalisme calviniste et a doté l'argumentaire réformé d'un volet qu'on pourrait dire colonial. Divers savants, tels le cartographe et explorateur Guillaume Le Têtu, pour nommer seulement celui-là, se sont appropriés symboliquement le Nouveau Monde et ont publié, dans le cas de Guillaume Le Têtu, un corpus d'ouvrages faisant avancer les connaissances géographiques et anthropologiques sur ces contrées éloignées. Ces érudits réformés voyaient une situation analogue entre celle des Amérindiens et des réformés en Europe, parce que les deux étaient sous le joug des Espagnols, ou à vrai dire, la dynastie des Habsbourg, qui était catholique, qui était vraiment de prime abord espagnole, mais qui, à vrai dire, contrôlait une bonne partie de l'Europe, l'Europe centrale, des morceaux de la France actuelle, la Belgique, les Pays-Bas actuels. Donc voilà. Dans ce processus intellectuel, ces écrivains réformés ont formulé un projet ambitieux, selon lequel l'Amérique doit être investie et peuplée par les disciples de Jean Calvin, Théodore de Bèze et Pierre Viret, au nom de la Réformation. Selon ce projet, les réformés partageraient l'Évangile avec les Amérindiens et les Amérindiens partageraient leurs terres avec les réformés. Autrement dit, la lutte pour le sort de la civilisation chrétienne était transportée en Amérique. Il faut dire que ce projet, qui a été élaboré par des militants huguenots, fut éventuellement récupéré par les puritains d'Angleterre, les puritains étant des protestants évangéliques, au point qu'un historien affirme, je cite, « L'histoire de l'Amérique anglaise commence telle que l'ont pensé les protestants français. » Le thème d'aujourd'hui étant le protestantisme francophone, nous allons voir comment ce projet a aussi inspiré la fondation de la Nouvelle-France. En France, quand les réformés persécutés se sont légitimement défendus, les guerres de religion ont éclaté, ce qui a entraîné une concrétisation du projet de fonder une nouvelle Genève en Amérique, que je viens de vous décrire, le projet. Et j'insiste ici pour dire qu'il ne faut pas avoir une vision misérabiliste de la Réformation en France. Donc, ce projet-là, oui, était bien sûr... Il y avait une idée de fuite, vu qu'il y avait des persécutions. Mais il faut quand même garder en tête que les réformés en France, pendant la deuxième partie du 16e siècle, ont quand même contrôlé la moitié du Royaume de France pendant 50 ans. Donc, avant d'être jetés en dehors de la France, ils ont été puissants politiquement et militairement pendant un bout de temps. Donc, ce projet de créer une colonie refuge en Nouvelle-France s'inscrivait aussi dans une optique de conquête ou de dominer sur la création, le mandat biblique de dominer sur la création. Déjà, en 1541-43, le huguenot Robert Val avait tenté d'établir une colonie à Cap-Rouge, près de Québec. Le roi de France, François Ier, lui avait donné le mandat de construire des églises et des temples. Ce qui est très intéressant, parce que les calvinistes d'Europe continentale, à l'époque, appelaient leur lieu de culte des temples. On voit donc que, dès le départ, une place importante était prévue pour le calvinisme en Nouvelle-France. Or, la mésentente entre Robert Val et Jacques Cartier ainsi que la mauvaise qualité des recrues a fait échouer cette tentative. Une dizaine d'années plus tard, Gaspard de Coligny, l'amiral de France et le stratège militaire des réformés, envoie Nicolas de Villegagnon et 600 hommes et femmes fonder le Fort Coligny dans l'actuelle baie de Rio de Janeiro, au sud du Brésil. Donc, oui, la Nouvelle-France aurait pu être au Brésil. Sauf que dès l'embarquement, pour s'y rendre, la situation était malaisée puisque des catholiques, dont deux bénédictins, font aussi partie du contingent. Deux ans plus tard, en 1557, Jean Calvin envoie deux pasteurs et une dizaine d'autres habitants de Genève à bord d'un contingent de 300 colons supplémentaires au Fort Coligny. Rapidement, des tensions s'accumulent. Il y a le cannibalisme des Amérindiens, l'indiscipline sexuelle de certaines recrues, la division entre les calvinistes et les papistes. Avant même que la situation soit résolue, cette colonie d'un millier d'habitants est détruite par les Portugais catholiques en 1560. L'amiral de Coligny envoie ensuite Jean de Ribaut fonder Charlefort en Caroline du Sud en 1562. L'hostilité des Amérindiens et une mutinerie firent échouer cette tentative. Ayant toujours espoir, Coligny envoie en 1564 René de Laudonnière et 300 Huguenots fonder le fort Caroline en Floride. Donc oui, la Nouvelle-France aurait pu être en Floride. Malheureusement, cette colonie, qui avait bien commencé et qui était pleine d'avenir, fut détruite par les Espagnols catholiques en 1565. L'assassinat de Gaspard de Coligny lors du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 mit temporairement fin au projet de créer une colonie-refuge pour les calvinistes français en Amérique. Ceci clôt mon premier point. Deuxième point maintenant est le rôle de premier plan que des Huguenots ont joué dans la fondation de la Nouvelle-France. Une génération plus tard, des calvinistes français relancent le projet de créer une colonie aux Amériques. Une première expédition estivale a lieu en 1599. Un Huguenot, Pierre Chauvin de Tonnetuy, natif de Dieppe en Normandie, et accompagné de Pierre Dugas de Mont, qui était natif de Royan en Saintonge, et de François Dupont-Gravé, natif de Saint-Malo en Bretagne, s'embarquent à bord du navire Don de Dieu et viennent investiguer la vallée du Saint-Laurent. Prenez note ici que la devise de Québec, c'est « Don de Dieu ferait valoir ». Elle vient de ce navire-là, « Don de Dieu », qui appartenait premièrement à Pierre Chauvin. Et tous le trio d'hommes dont je viens de vous parler étaient tous des calvinistes. Donc, c'est très méconnu, mais la devise de la ville de Québec a une origine protestante et non catholique. Ensuite, une deuxième expédition avec hivernation a lieu en 1600-1601. Ce même trio calviniste, toujours dirigé par Pierre Chauvin, fonde Tadoussac, le premier poste de traite français dans l'actuel Québec. Une troisième expédition estivale a lieu en 1603. Le voyage est cette fois dirigé par François Dupont-Gravé, qui scelle au nom du roi Henri IV, et je fais une petite parenthèse ici, le roi de France Henri IV n'a jamais été réellement protestant. Donc scelle au nom d'Henri IV, une alliance avec les Montagnais. Ce qui a permis, c'est cette alliance-là qui a permis l'établissement des Français dans la vallée du Saint-Laurent. Dupont-Gravé explore le même été les rivières Saguenay et Richelieu. Sur ce voyage, il y a pour la première fois Samuel de Champlain qui est là en tant que simple observateur. Et j'insiste, c'est sa première fois dans la vallée du Saint-Laurent. Une quatrième expédition avec de multiples hivernations s'étale de 1604 à 1607. Elle est dirigée par Pierre Dugaudemont, qui fonde le premier établissement permanent en Acadie, Port-Royal, en 1605. Deux ans plus tard, la colonie compte une centaine d'habitants, dont une forte proportion d'huguenots. Par contre, les catholiques des parlements de Rennes et de Rouen, en France, voient cela d'un mauvais œil et mettent des bâtons dans les roues des chefs de l'entreprise, forçant la fermeture temporaire de la colonie de Port-Royal. Une cinquième et ultime expédition a lieu en 1608. Depuis la France, Dugaudemont envoie François Dupont-Gravé et Samuel de Champlain fonder Québec. Dugaudemont est le commanditaire de cette entreprise, tandis que Dupont-Gravé sert, littéralement, de mentor et de guide à Champlain, puisque Dupont-Gravé avait beaucoup plus d'expérience que Champlain dans la vallée du Saint-Laurent à ce moment-là. Il faut donc poser deux constats sur la fondation de 1608. Un, Champlain exécutait les ordres de son supérieur et financier, Dugaudemont. Sans Dugaudemont, Champlain n'aurait jamais mis les pieds à Québec en 1608. Deux, Champlain n'est pas le fondateur unique et indépendant de la ville de Québec, mais doit être considéré cofondateur avec son mentor, François Dupont-Gravé. Donc, la fondation a lieu en 1608. Pendant la décennie suivante, on assiste à une séparation des rôles entre Champlain et Dupont-Gravé. C'est surtout Champlain qui voyage dans la colonie, et c'est Dupont-Gravé qui fournit fidèlement son ravitaillement à l'habitation de Québec. À partir de 1620, ces deux autres huguenots, Émeric de Caen et Guillaume de Caen, qui sont en charge du ravitaillement de la jeune colonie. Lorsque Émeric est gouverneur de la Nouvelle-France de 1624 à 1626, il y a un premier groupe de cinq jésuites, dirigé par Jean de Brébeuf, qui débarque devant Québec en 1625. Pour ceux qui ne le savent pas, les jésuites étaient, qu'on appelle le nom formel, les compagnies de Jésus, mais qui étaient, en forçant le trait un peu, quasiment l'armée privée du pape. Et Émeric de Caen, donc, sait très bien ce que ça présage, et a carrément interdit d'accueillir les jésuites dans l'habitation de Québec en 1625. Et c'est pourquoi ces jésuites-là vont ériger une cabane en retrait au confluent des rivières Saint-Charles et Léret. Durant cette période qui précède 1628, les protestants sont majoritaires parmi la 80aine d'habitants de Québec. Maintenant, parlons de Samuel de Champlain, qui est issu d'une famille calviniste. D'ailleurs, le printemps dernier, on croit avoir retrouvé son acte de naissance à La Rochelle, comme quoi il était vraiment, vraiment protestant, il aurait été baptisé calviniste. Mais Champlain était lui-même peu enthousiaste en matière de religion. Et Champlain rapporte dans ses relations qu'au début, dans les premières décennies de la ville de Québec, les protestants, ici, là, quelques kilomètres d'ici, il y a 400 ans, chantaient des psaumes, étudiaient la Bible et pratiquaient les rites selon l'usage réformé. Au point même que la situation des réformés était même tellement confortable à ce moment-là que des catholiques se sont même plaints d'être obligés de participer à des cultes protestants. Tout cela embête Champlain, qui voit dans cette discorde une faiblesse potentielle à la consolidation de la colonie. Puisque le protestantisme était alors en perte de vitesse en France, Champlain calcule que c'est plus avantageux pour lui et pour son idée de Nouvelle-France de pencher du côté des catholiques. C'est pourquoi Champlain interdit aux réformés de chanter leur chant dans l'habitation de Québec. Alors, qu'est-ce que vont faire les réformés? Ben, ils vont aller chanter sur les navires qui sont juste à côté de l'habitation et chanter assez fort pour être entendus dans l'habitation. Donc, voilà qui est, à mon sens, très intéressant. Ça clôt mon second point. Troisièmement, la présence des protestants en Nouvelle-France en tant que minorité religieuse, qui est la partie de ma matière que j'ai à vous présenter, qui est la plus corsée, mais procédons. À la fin des années 1620, il y a beaucoup de chambardements des deux côtés de l'océan. En France, la réduction de la ville de La Rochelle, qui était un des bastions des calvinistes en France. Donc, cette réduction de La Rochelle par le cardinal de Richelieu, puis le traité d'Alès, imposé par le roi Louis XIII, désarme les protestants, qui était une force armée dans le royaume depuis bien proche un siècle à ce moment-là, et place les protestants sous le bon plaisir de la royauté. En Nouvelle-France, on présume, pour se venger de ça, des protestants franco-anglais, les frères Kirk, s'emparent de la ville de Québec et provoquent son évacuation partielle jusqu'en 1632. C'est dans ce contexte que le cardinal de Richelieu révoque, en 1627, les privilèges que détenaient Émery et Guillaume de Caen et accorde un monopole commercial et administratif à des catholiques, la Compagnie des Sans-Associés. Contrairement à ce qui est fréquemment allégué, ce geste n'interdisait absolument pas aux protestants de venir en Nouvelle-France à titre individuel. Alors, qu'en est-il de la suite? Y a-t-il eu des Huguenots en Nouvelle-France en 1632? Si oui, quel était leur nombre? Y a-t-il eu des interdictions ultérieures? Quelles étaient les conditions de vie des réformés par la suite en Nouvelle-France? C'est à ces questions que les historiens ont tâché de répondre avec les sources éparses et fragmentaires à leur disposition. Dans un premier temps, je ferai un survol des témoignages d'époque, que j'ai catégorisés ainsi. Les témoignages indiquant l'interdiction de venir, ceux indiquant une présence protestante, et ceux indiquant la permission de venir et même de rester sous certaines conditions. Dans un second temps, je ferai une synthèse de tous ces éléments pour que vous puissiez avoir une vision plus claire. Donc, premièrement, les sources indiquant une interdiction de s'établir en Nouvelle-France faite aux réformés. En 1683, le ministre de la Marine, en France, Colbert, à l'époque, sous le régime français, le ministre de la Marine était pas mal en même temps le ministre aux colonies. Là. C'était vraiment celui qui se chargeait qui était responsable des colonies, donc de la Nouvelle-France, puis qui faisait un peu le pont entre le roi et les colonies. Donc, le ministre de la Marine, Colbert, écrit à Monseigneur Laval, le premier évêque de Québec, je cite, ou à vrai dire, je paraphrase selon une source historique, « Sa Majesté maintiendra toutes les défenses qu'elle a faites aux Huguenots de passer à l'Acadie et en Canada. » Trois ans plus tard, le gouverneur général de Nonville, donc en Nouvelle-France, le gouverneur général était l'homme responsable. Il est envoyé par la France, donc c'était toujours un Français, jamais un natif canadien. Et le gouverneur général, ou presque jamais, donc le gouverneur général était vraiment responsable des questions de politique extérieure et militaire. Donc, le gouverneur général de Nonville écrit aux autorités françaises à propos des Huguenots. Je cite, « On prendra soin de les faire changer et on ne les souffrira pas dans l'exercice de leur religion. » Ce qui est assez sévère. Cependant, bon, deuxièmement, il y a les plaintes renouvelées du clergé papal qui attestent, au contraire, ben, malgré tout, que les protestants étaient toujours présents dans la colonie et qu'ils étaient soupçonnés d'y conduire des activités soi-disant illicites. Donc, dès 1635 et 1637, il y a les relations des jésuites qui se lamentent de la présence de réformés. En 1643, il y a un religieux capucin qui écrit à propos de Charles de la Tour, qui était gouverneur de l'Acadie de 1631 à 45, et qui est par ailleurs le fondateur de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Donc, le sieur de la Tour estoie un très mauvais François par la vie scandaleuse et hérétique qu'il mène. C'est un catho, hein, qui écrit ça. Lui et ses gens, allant au prêche et permettant dans son propre navire que les hérétiques fissent hautement prière publique. Alors, il y avait, on voit par là un témoignage, il y avait aussi une présence réformée en Acadie. En 1670, Monseigneur Laval écrit un mémoire au roi de France où il rapporte que les réformés en Nouvelle-France tiennent plusieurs discours séduisants, qu'ils prêtent des livres, qu'ils se sont même assemblés entre eux, que plusieurs personnes parlent d'eux honorablement et ne peuvent se persuader qu'ils soient dans l'erreur. Si on avance un peu dans le temps, en 1625, il y a Monseigneur Saint-Vallier se plaint au ministre de la Marine, Maurepas, toujours que des protestants, et puis ça lui donne de l'urticaire. En 1648, Monseigneur Pontbriand, ça c'est toujours les évêques de Québec, là. Monseigneur Pontbriand se plaint au ministre de la Marine, toujours Maurepas. En 1753, encore Monseigneur Pontbriand se plaint au ministre de la Marine, cette fois c'est un certain Jouy. Troisièmement, il y a les témoignages laissant comprendre qu'en réalité, les Huguenots étaient tolérés à certaines conditions. En 1642, Paul de Maisonneuve, le fondateur catholique de Montréal, accepte les réformés à Montréal, qui s'appelait alors Ville-Marie, à condition qu'ils soient des hommes de métier, c'est-à-dire des artisans. En 1651 et encore en 1655, le Conseil de la Cité de Québec autorise des marchands huguenots à venir commercer à Québec, alors même que c'était supposément une compagnie catholique qui avait un monopole pour faire ça à ce moment-là. En 1676, le Conseil souverain de la Nouvelle-France prohibe les célébrations du culte réformé, ce qui démontre par ricochet que de telles célébrations avaient encore lieu, et autorise les marchands protestants et leurs commis à séjourner dans la colonie durant l'été, puis d'hiverner moyennant une permission spéciale, à condition qu'ils vivent comme des catholiques sans causer scandale. Voilà. C'est pas trop demandé, hein? En 1741, il y a l'intendant Ocor, l'intendant en Nouvelle-France, était celui qui était responsable des affaires internes, donc surtout de l'administration. Donc, l'intendant Ocor écrit au ministre de la Marine, Maurepas, pour les rassurer que les protestants de la colonie se conduisent discrètement. En 1749, il y a l'intendant Bigot réitère cette information à la métropole, la France. En 1755, le ministre de la Marine, Arnouville, réitère toujours cette même information à l'archevêque de Québec, Mgr Pontbriand. Donc ça, c'est tous ces témoignages-là, compilés, qui sont plus ou moins contradictoires. Et je vais à présent faire plusieurs points de synthèse. Voilà. Bon. À ce jour, les études généalogiques conduites par Marc-André Bédard dans les années 70 et Michel Barbeau dans les années 90-2000 ont permis de recenser un total de 859 individus d'origine protestante qui se sont établis ou sont demeurés temporairement en Nouvelle-France, répartis comme suit par origine nationale. Au moins 328 Français, 258 Britanniques, des soldats prisonniers qui sont souvent même restés définitivement là, pour vivre en Nouvelle-France, 83 Allemands, Suisses et Néerlandais, et 190 dont l'origine ethnique est inconnue. Or, l'origine ou l'arrière-plan protestant de ces individus ne signifie pas qu'ils aient tous été de conviction protestante. Un exemple éloquent, Abraham Martin, qui était, si je ne me trompe pas, le premier propriétaire des plaines d'Abraham, pas loin d'ici. Or, Abraham Martin, bon, on sait qu'il était d'origine protestante. Déjà là, le nom Abraham, c'est biblique, c'est pas mal protestant à l'époque. On sait qu'il a baptisé son premier enfant dans le rite calviniste. Cependant, bon, ses mœurs étaient discutables, ce qui peut nous amener à nous questionner sur sa foi, parce que, bon, entre autres, bon, il a subi un procès pour avoir débauché une adolescente huronnette. Donc, vous voyez, origine protestante signifie pas automatiquement foi protestante. Mais inversement, le catholicisme extérieur de la masse de la population n'implique pas que tous ces catholiques officiels étaient de conviction catholique, bien au contraire. À ce propos, la prétendue inexistence de protestants en France est le prétexte qu'a employé le roi Louis XIV pour révoquer l'édit de Nantes qui donnait certaines libertés aux protestants en France, donc pour le révoquer en 1685. Et ce même prétexte, la prétendue inexistence de réformés a été reprise par Louis XIV l'année suivante, en 86, dans une lettre qu'il a envoyée au gouverneur général de la Nouvelle-France, de Nonville. Or, on sait sciemment qu'il y avait encore 1 million de calvinistes en France à l'époque, et on estime raisonnablement qu'il y en avait plus qu'on a dénombré en Nouvelle-France. C'est ce que conduit l'historien Robert Larrain à avancer l'hypothèse que 3000 protestants auraient séjourné ou émigré dans la vallée du Saint-Laurent pendant le régime français et que un tiers d'entre eux, 1000, seraient restés définitivement. Puisque environ 8000 Français se sont établis dans la vallée du Saint-Laurent sous le régime français, cet approximatif millier de pionniers d'origine huguenote constitue 1/8 de la population génitrice du peuple canadien français. Donc, 1/8 minoritaire, mais quand même substantiel. Pendant toute la période de la Nouvelle-France, on constate une permanence de la présence calviniste. Cependant, cette présence ne fut pas assurée par filiation intergénérationnelle, mais par l'arrivée constante de nouveaux effectifs huguenots dans la colonie. La clandestinité du culte réformé forçait une intériorisation excessive de la foi et rendait quasiment impossible la transmission multigénérationnelle de la doctrine protestante. À l'heure actuelle, il semble y avoir eu une seule cellule réformée qui a réussi à déjouer le carcan social catholique répressif en se mariant entre réformés sur quatre générations de 1639 à 1718. Il s'agit de la famille Lavoie, établie à Château-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré, puis Rivière-Ouelle. Il apparaît que, malgré l'intention originelle des fondateurs calvinistes de la Nouvelle-France, la Nouvelle-France n'a pas constitué une colonie-refuge pour les réformés français. Puisque bon, les plus fervents d'entre eux, plutôt que de s'exiler dans un autre territoire où il y aurait les mêmes problèmes qu'il y avait en France, on préférait s'exiler dans des pays protestants comme la Prusse ou les Pays-Bas. Nous savons que beaucoup plus de Huguenots auraient voulu s'établir en Nouvelle-France. Justement, au début du 18e siècle, donc autour de 1700-1705, dans ce coin-là, il y a un collectif de Huguenots réfugiés dans les 13 colonies américaines qui ont envoyé une pétition au ministre de la Marine en France. Alors, c'était Pontchartrain. Pour lui demander de s'établir en Nouvelle-France, où est-ce qu'il y avait d'autres Français. Or, le ministre leur a froidement répondu, je cite, « Le roi n'a pas expulsé les protestants de son royaume pour en faire une république en Amérique. » Très gentil. Donc, assurément, cette politique qui consistait à écarter les Huguenots fut désastreuse pour la France et l'identité française à l'échelle internationale. Beaucoup d'historiens dont j'ai consulté les ouvrages sont d'accord pour dire que si la France avait permis aux réformés de s'établir en Nouvelle-France, l'Amérique du Nord serait aujourd'hui un continent au moins autant francophone qu'anglophone. Donc, c'est vraiment un échec majeur de la monarchie française. Et un fait qui milite dans ce sens, c'est qu'à la fin du régime français, il y avait autant, sinon plus, de descendants de Huguenots dans les 13 colonies américaines que de population totale catholique de la Nouvelle-France. Ce qui est beaucoup. Globalement, les autorités de la Nouvelle-France semblent avoir fonctionné de la façon suivante avec les réformés. Ceux qui sont de passage, on ferme les yeux. Ceux qui sont discrets, on les ignore. Ceux qui se manifestent ouvertement, on les contraint à l'abjuration. Ceux qui refusent d'abjurer, on les expulse. Or, s'il y a 60% des Huguenots en Nouvelle-France qui finissent par abjurer, il y a 40% qui refusent catégoriquement d'abjurer. Puisque seulement une fraction de ce 40%-là fut expulsée, il faut croire que le pouvoir catholique s'est résolu à tolérer les inconvertibles. Et faut aussi souligner que beaucoup de ces abjurations-là étaient opportunistes, n'étaient pas nécessairement sincères ou étaient très intéressées. Un exemple, le marquis de Montcalm, qui a conduit les armées françaises pendant la guerre de conquête. Le marquis de Montcalm venait d'une famille réformée et il s'est converti au catholicisme quand il avait envie de se marier dans la haute société aristocratique. Alors, vous voyez le genre de... Je pense que ça donne une bonne idée. Le pire cas de persécution connue en Nouvelle-France semble être celui d'un dénommé Gabriel Bernon, qui arrive en Nouvelle-France en 1682 avec l'intention d'y planter une église réformée. Malheureusement, il est déporté et emprisonné en France dès 1685. Mais puisqu'il était d'un esprit assez tenace, il s'évade pas longtemps après en Hollande avec sa famille. Puis par après, il s'installe au Rhode Island et devient un marchand prospère. La politique adoptée en Nouvelle-France à l'égard des réformés correspond avec celle en vigueur en France au même moment, à la différence que l'intensité de la persécution était moindre ici qu'en France. Il n'y a jamais eu de grosses dragonnades, de bûchers ici, là, rien de ce genre-là. La persécution avait plus un caractère de conformisme social, comme ça. Donc, si on découpe, si on fait un découpage historique, de 1600 à 1627, en Nouvelle-France, les protestants ont officiellement et effectivement des droits comparables à ceux des catholiques. De 1627 à 1685, ils sont dépouillés de tout privilège politique, mais sont considérés comme des vrais sujets français, du moment qu'ils marchent les fesses serrées. De 1685 à 1717, c'est pas vraiment exagéré de dire que les protestants sont carrément hors la loi. De 1715 à 1760, ils sont tolérés à condition d'être discrets. Et gloire à Dieu, la période de discrétion est terminée. Donc, ceci clôt ma conférence. Nous avons quelques minutes pour des questions. Est-ce que des gens...
Juste une petite annonce. Il y a une personne qui a laissé sa voiture, une Honda grise, juste en arrière de la porte. Si vous voulez pas
c'est monsieur.
C'est possible d'aller la parquer le long de la falaise au restaurant ou le petit parc à côté de la chaîne. Il y a pas de parking, c'est la place. Ou plus haut dans la rue. Ça va être guise.
OK. Donc, on va aller en pause. Et on revient à 11h30 pour la deuxième conférence sur le survol de l'action missionnaire au Québec. C'était une famille protestante. Quand Henri IV est mort, Henri IV, c'est le premier roi qui avait été chambré. Quand Henri IV s'est fait assassiner en 1710, le Champlain a comme perdu son support. Le père l'a élevé comme secrétaire du roi, qui était Louis XIII, qui était le fils de Henri IV. Henri IV, c'est un mariage. Mariage d'affaires que Champlain a fait. Il n'était pas du tout en amour, c'était juste son beau-père de l'Église était bien placé. Il était protestant, mais pas très militant. Mais c'est intéressant de noter que dans le mariage, Hélène Boulay avait 12 ans. Champlain, c'est écrit dans l'acte de mariage, que Champlain ne devait pas avoir cohabitation entre les deux. Donc, autrement dit, le mariage ne devait pas être consommé avant que Hélène ait 14 ans. On devait attendre 2 ans. Et Hélène était protestante à ce moment-là. Et elle ne s'est pas officiellement convertie au catholicisme avant qu'elle ait 14 ans. Donc, tu sais, on a vraiment étiré au maximum. De toute façon, Champlain aux Antilles fait des mauvaises choses, sans doute empêcher de... Donc...
Finalement, c'est pour l'actu qu'elle fait ça.
Elle, oui, officiellement. Et comme je dis, était sincère, bon, les gens partant. Non, c'est des conversions intéressées. Ben, parfois sincère, mais...
Pourquoi de moi juger?
Dieu le sait. Parfois, on peut en juger selon si on a des événements, si on a des choses qui sont arrivées, mais... Donc, voilà. Ça me fait plaisir.
Je veux dire, c'est tout à fait.
Oui?
Parce que moi, il y a beaucoup de choses que vous avez dites que j'aimerais ça les avoir parce que vous avez donné beaucoup de noms, beaucoup de dates. J'aimerais ça avoir ça par écrit. Ça aurait été possible de les avoir.
Oui. Vous, c'est Chantal?
Non, moi, c'est
Lise. OK, vous, c'est Lise. Excusez-moi, je ne connais pas encore les
faces. Oui, non, c'est correct.
Lise, ben, donnez-moi votre courriel.
Oui, ça c'est
vous envoyez votre documentation.
Ça c'est
oui.
Comment? Je peux la prendre?
Oui.
Le deuxième conférencier de visuellement qui est ici?
C'est monsieur.
Ok, à peu près la même valeur que ça.
Thank you. dégrader à un moment donné dans le centre, soyons plus rapides.
Je sais pas ce que tu disais, c'est la petite c'est la maison, c'est